DJ Mogul. African fair play. Farafina Bolota, America will in the coina. Bibi Namu, what is it? No one and the Benda Dabin and the Kupta for coina.
Alors is my Nigerian. Tikita kata 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 shiba el kop tu ni kala. La pou kam la rawaz. Tiki bjib shati trek al pahera yali gajmena.
Allez, allez, allez.
Sans peur on ira pour la victoire.
Allez, allez, allez.
C'est l'Afrique qui gagne, marquons l'histoire.
Our fight is tonight. Oh na na na. Yes, oh na na na. For Africa. Oh yeah, yeah, yeah. Yes, oh yeah.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Médien. Vous le savez, chaque jour, Médien vous propose une émission consacrée à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019 qui se déroule en Égypte. Les choses sérieuses ont commencé, même si certains pensent que la Coupe d'Afrique des Nations débutera à partir du deuxième tour, puisque pour la première fois, 24 sélections prennent part à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Dans un instant, direction l'Égypte pour retrouver l'envoyé spécial de Médien, Fouad El-Hanaoui. Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain, est avec nous également. Nous écouterons quelques joueurs, puisque vous le savez, côté marocain, Younes Belhenda était avec Hervé Renard hier pour la conférence de presse. Et puis également, nous écouterons les joueurs algériens. Mais avec nous dans les studios, notre ami Hilal Tahir, cadre entraîneur marocain, une longue expérience, première, deuxième division entraîneur, directeur technique, bien sûr. Si Hilal, Massa Al-Khair, bonsoir.
Bonsoir, c'est Hakim, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices.
Merci beaucoup aussi, Hilal. On va parler avec vous côté tactique, côté technique, bien sûr. Sûr, la compétition a débuté, c'était vendredi dernier, 8 jours déjà, pas mal de rencontres, certaines rencontres intéressantes, d'autres moins, et on verra cela bien sûr dans quelques instants. Avant d'aller en Égypte, Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain, est avec nous. Bonsoir Hervé.
Bonsoir les amis, oh là, vous tremblez je sens, dans une heure, grand match.
Match Maroc-Côte d'Ivoire, mais pour l'instant il y a Tunisie face au Mali, et la Tunisie a été menée au score, une grosse boulette du gardien. Avant cela, eh bien, on va en Égypte pour retrouver Fouad El-Hanaoui, l'envoyé spécial de Médien. Bonsoir Fouad.
Bonsoir Hakim, bonsoir Hervé, bonsoir Hilal, bonsoir à tous et à toutes.
Fouad, première question qui s'impose, on est à environ 50 minutes du coup d'envoi de ce match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Forcément, on veut savoir la composition des Lions de l'Atlas et bien sûr la question qui se pose, y a-t-il du changement par rapport à la formation qui a affronté la Namibie?
Oui Hakim, tout à fait, Hervé Renard a fait confiance à son équipe type. Celle qu'on a vue un petit peu dans les grands matchs de ces 3 dernières années, si ce n'est l'absence de Khalid Boutayeb, qui est, comme vous le savez, blessé. Sinon, on aura Yassine Bounou dans les cages, avec Achraf Hakimi comme arrière-gauche, Mehdi Ben Abia et Ranem Saïd au milieu de la défense, et puis Nabil Derar comme arrière-droit. Au milieu de terrain, les deux récupérateurs, Karim Al-Ahmadi, Younes Belhenda et Mbarak Bouzoufa. Et puis en attaque, nous retrouverons Yash Nourdine Al-Mrabat et Youssef Ansari. Une composition classique des changements par rapport à la composition du match face à la Namibie. On le savait, il y avait la rentrée de Aïssa Nasser et de Bourabéa. Hervé Renard était un petit peu obligé de faire ce changement car Belhenda était blessé lors de la première rencontre. Et puis Karim El-Ahmadi était un petit peu fatigué, il avait demandé un petit peu de repos. Donc voilà, c'est la composition classique de la sélection marocaine.
Si Hilal, une première réaction, bien sûr après Fouad a décliné la composition de l'équipe du Maroc avec l'incorporation de Younes Belhenda, est-ce qu'on s'attendait à d'autres changements?
Oui, moi personnellement je suis légèrement surpris, mais c'est une composition zéro risque. Certes, on change pas une équipe qui gagne, on change pas une formule qui fait gagner, mais il y a une baisse de régime de certains cadres, en l'occurrence Derrard. Le trio défensif aussi individuellement, certes, ils ont beaucoup de talent, beaucoup de vision de jeu, beaucoup d'expérience, mais pour moi, c'est l'association qui ne fonctionne pas assez bien.
Mais, la complémentarité.
La complémentarité, voilà. Sinon, j'espère au moins faire jouer Amrabat à droite et Ziyech à gauche pour profiter des centres, parce que Nsairi, on le connaît, c'est un joueur de boxe et il est fort en jeu tête aérien.
Hervé Penaud, une première réaction à propos de la composition avec le retour de Younes Belhenda. Peut-être certains supporters, une partie de la presse également, espéraient le retour ou bien l'incorporation de Mazraoui, qui a réussi une belle saison avec l'Ajax d'Amsterdam, vu que Nabil Derrard manque de compétition.
Oui, alors je peux comprendre, hein, tout à fait, mais je comprends aussi Hervé Renard. C'est-à-dire qu'à un moment, il part avec son équipe type. Il ne faut pas rêver. Il serait parti avec son équipe type sur le premier match. Ça n'a pas été exceptionnel, mais il y a victoire au bout. Je pense qu'il pourra faire plus facilement des changements s'il réussit un bon résultat ce soir sur le troisième match. Ce sera important parce qu'il est simplement dans trois jours. Il ne faut pas l'oublier. Donc là, la logique, à mon avis, c'était quand même de partir sur les 11 en qui on a confiance. Ne pas oublier que Mazraoui, lui, ne connaît pas très bien le football africain. C'est un jeune joueur. Donc sur un match comme ça, il faut peut-être des gens beaucoup plus habitués. Il sait qu'il aura la combativité de Dirard. N'oubliez pas le match à Abidjan, hein, avec la qualification Coupe du Monde, où vous aviez la même équipe, en gros. Hein, et il savait que Dirard serait très très utile. Il savait aussi qu'Amrabat serait très utile sur ce couloir gauche où ça monte facilement, et couloir droit de la même manière avec Serge Aurier, évidemment. Et puis là, vous avez Nicolas Pépé qui va très vite. Donc, d'une certaine manière, il est resté dans sa logique. Moi, ça me paraît assez normal, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'était pas temps de faire des essais. On verra sur le troisième match. Belhenda étant rétabli, il est là. Et puis je dis Mazraoui aussi, je crois que ce n'était pas toujours entraîné. Hein. Je crois qu'il avait une légère blessure à Meaux la semaine dernière. Donc voilà, moi ça me paraît relativement bien. Et puis si on veut que Dirard reprenne de rythme, il faut aussi qu'il joue. Maintenant, c'est vrai qu'il n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière, ça c'est vrai. Mais à lui de prouver qu'il reste le guerrier qu'il a été.
Voilà donc pour la composition de l'équipe. Avant de retrouver Fouad en Égypte, Nadia Labib, les auditeurs, Mohamed Bastour, Rachid Boumhedi et Mal Issa. Voilà Nadia Labib qui dit elle est en Égypte. Eh bien, tant mieux pour tous les supporters et également ceux qui vont regarder le match de l'équipe du Maroc pour le match qui se déroule en ce moment. Les dernières minutes, le Mali et la Tunisie sont à égalité. Un but partout. Fouad, vous avez vu l'équipe du Maroc s'entraîner, on l'a vu. Et vous l'avez déjà souligné, il y a eu quelques blessures, quelques joueurs qui ne sont pas prêts, à l'image de Khalid Boutayeb, d'autres qui reviennent de blessures comme Nsairi. Est-ce que vous voyez, est-ce que pendant les entraînements, on peut voir ce qu'on appelle l'état d'esprit d'un groupe ?
Oui, j'ai assisté Hakim à toutes les séances d'entraînement, tout côté ouvert pour la presse, c'est-à-dire tout au long de cette semaine, depuis lundi dernier, depuis le dernier match face à la Namibie, on peut dire qu'il y a une ambiance bon enfant entre les joueurs. Les joueurs se sont sentis un petit peu allégés après la victoire in extremis au portail face à la Namibie. Ce but venu du ciel, marqué à la 87e minute par le défenseur namibien contre Cancan. Et là, il a fait beaucoup de bien pour les Lions de l'Atlas. On a senti que les joueurs, avec ses trois points dans la poche, vont négocier sereinement les deux prochaines sorties, ce soir face à la Côte d'Ivoire et lundi prochain face au Bafana. Peut-être l'équipe du Maroc aura besoin d'un nul, que ce soit ici face à la Côte d'Ivoire ou face au Bafana pour assurer la qualification. Mais les Lions d'Atlas, et tout au long de cette semaine, et tout au long des déclarations, eh bien, on veut aller gagner ces deux matchs, on veut occuper la première place de ce groupe pour rester ici au Caire, jouer le prochain match à ce stade, le stade de Salem, et pour affronter une équipe de troisième niveau, c'est-à-dire une équipe qui va occuper la troisième place dans les autres cinq groupes donc de cette compétition. Donc l'ambiance est sereine et on est confiant au sein des joueurs. On sait ce qu'on veut et les joueurs disent qu'ils vont faire le maximum pour arracher une victoire. C'est pas bien pour le moral.
ça sera bien pour la suite de la compétition. Essayer de marcher sur les traces des équipes qui se sont qualifiées après deux victoires jusqu'à maintenant. J'ai nommé l'Égypte, le pays hôte, le Nigeria, double vainqueur de la compétition. Et puis hier, l'Algérie qui a brillé avec une deuxième victoire face au Sénégal.
On va revenir sur la sélection algérienne. Merci beaucoup, Fouad. On va revenir sur la qualification de la sélection algérienne. Une victoire face au Sénégal. Et avant cela, on va essayer de libérer Hervé à condition de le récupérer dans la deuxième partie. Hervé, un petit mot quand même sur la Côte d'Ivoire, l'adversaire de l'équipe du Maroc. Le Mali a failli marquer le deuxième but, mais à deux minutes de la fin, le score est toujours d'un but partout. La Côte d'Ivoire, la composition de l'équipe, on l'a vu, cette équipe un peu aussi possible lors de sa première sortie. Et également un petit mot sur le Sénégal peut-être, mais d'abord la Côte d'Ivoire dans cette première partie, Hervé.
Bon, bah, la Côte d'Ivoire, vous savez, c'est une équipe qui vient avec pas énormément d'assurance. Alors, ils ont l'ambition d'aller le plus loin possible, de la remporter la Coupe. Hein, c'est Georges Aurier l'a dit. Mais défensivement, ils ont eu quand même des grosses absences. Bailly, ça c'est vraiment un coup dur pour eux parce que c'était la poutre de la défense centrale ivoirienne. Mais devant, vous avez quand même le phénomène Nicolas Pépé, hein, qui a déjà fait un premier match de très bon niveau en frappant la transversale sur un coup franc, en ayant un autre coup franc détourné par le gardien. Devant, il y a du poids offensif. Alors, Zaha a fait une très mauvaise entrée, mais il est capable de tout sur un match, on ne sait jamais. Donc devant, il y a du potentiel. Derrière, il y a peut-être quelques faiblesses à pouvoir utiliser parce que ce n'est pas la défense habituelle hein, de l'équipe de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ils ont un joueur local qui joue sur le côté gauche, hein, Koulibaly, parce qu'il y a trop d'absence. Hein. Il y a l'absence du latéral gauche de Reims qui était blessé. Et donc, on se retrouve avec quelques interrogations quand même sur la qualité de cette équipe et qui va aussi devoir hausser son niveau de jeu, je trouve, au milieu de terrain où par exemple, vous avez un joueur comme Seri Dié qui n'est pas tout jeune aussi, donc il va falloir qu'il s'habitue à ces chaleurs-là. Donc la Côte d'Ivoire, c'est une équipe dont on ne sait pas complètement ce qu'elle est capable de faire. Est-ce qu'elle peut aller au bout? Est-ce qu'elle va être une des déceptions? Voilà, franchement, moi, c'est une équipe qui interroge. En revanche, je ne la placerai pas comme la favorite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il lui manque quelques petites choses quand même. Quant au Sénégal, le Sénégal a fait un match intéressant, j'allais dire, mais sans plus contre l'Algérie. Surtout, j'ai trouvé collectivement et techniquement, ça manquait de fluidité. Ils n'ont jamais réussi à trouver les bons espaces contre une équipe d'Algérie, en revanche, qui a été très bonne, certainement l'une des équipes les plus impressionnantes collectivement. Hein, je parle sur le début de cette compétition. Et les Sénégalais, ben, on attend plus d'eux. Hein. Sadio Mané est rentré sur ce deuxième match, n'a pas été énorme, mais il aurait quand même dû obtenir un pénalty parce que ce match se joue aussi sur un arbitrage un petit peu défaillant, pour le moins. Un pénalty oublié sur Mané, une expulsion du défenseur central algérien oublié alors qu'il y a faute sifflée. On oublie de lui donner un deuxième carton jaune qui était évident alors qu'il en avait déjà un. Donc ils auraient dû se retrouver à 10. Donc il y a eu des faits de jeu qui n'ont pas été dans le sens des Sénégalais, mais n'empêche que sur la rencontre elle-même, je trouve que les Algériens finalement méritaient leur succès parce qu'ils ont montré, ils ont fait preuve de beaucoup plus de fluidité collective et d'un vrai état d'esprit. Vous savez, les Algériens qui ont souvent une tendance à aimer le ballon et assez peu à le récupérer, et bien là j'ai trouvé que Belmadi, ce qu'il a réussi à insuffler dans cette équipe, c'est cette volonté de récupérer le ballon, de faire des efforts les uns pour les autres, à l'image d'un Bounedja en pointe, qui est un buffle qui court dans tous les sens, qui parfois techniquement peut-être manquer quelques petites choses, mais il n'empêche qu'il est un symbole un peu de cette équipe-là. Et j'ai trouvé des Feghouli, des Bennacer vraiment très très intéressants.
Merci Hervé. On vous retrouvera dans la deuxième partie si vous avez
tout de suite.
Merci. Donc avant de retrouver Fouad, il y a des questions qui se posent parce qu'on voit, bien sûr, il y a des auditeurs qui nous écrivent, qui sont sur place, et également la présence dans les gradins. Parfois, il y a quelques-uns qui ont pointé du doigt une désorganisation. On y revient dans un instant, mais je reviens vers vous, Hilal Tahir. Quand on voit la composition de l'équipe, est-ce qu'on peut avoir, on rappellera que on parlera dans la deuxième partie de la sélection algérienne qualifiée, également du match Tunisie-Mali qui touche à sa fin. Quand on voit la composition de Hervé Renard, est-ce qu'il y a du changement à prévoir sur le rendement, sur la façon de jouer de l'équipe du Maroc?
Ben, je pense que les intentions sont claires, que le sélectionneur national veut profiter davantage de la complicité entre le joueur, des affinités qui existent au préalable. Cette équipe, on la connaît très bien. Vu le 11 de départ, on peut déjà prévoir le plan du jeu. Je pense que le sélectionneur va opter pour garder le ballon, la conserver, priver l'adversaire du ballon, les faire courir pour qu'ils se fatiguent plus tôt et éventuellement attendre la dernière demi-heure pour qu'il soit décisif en notre faveur en faisant entrer Bouffel, que plus doué techniquement, je pense que ça sera ça. Ce sera aussi les balles arrêtées parce que les tâches sont déjà prédéfinies. On a des bons botteurs, des bons joueurs qui ont une belle patte. Sinon, de l'autre côté, il faut se méfier de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Certes, c'est une nouvelle génération, très ambitieuse, qui a envie d'écrire l'histoire aussi, et qui sont doués techniquement. Certes, ils auront moins d'expérience dans ce genre de rencontres, mais c'est une équipe globalement avec un poids offensif, qui ont des joueurs devant qui sont très dangereux, qu'il faut les priver, qu'il faut les surveiller de très près, il ne faut pas leur laisser beaucoup d'espace.
Voilà donc, et Hervé Penaud le disait tout à l'heure, surtout Pépé, le joueur de Rennes, Ouladi Youssef, bonne chance à l'équipe, Hadi Gharib, bonjour à la Dream Team, l'avant-match et bonne chance au Lion de l'Atlas. Le match Tunisie-Mali, c'est fini, un but partout. Une erreur du gardien tunisien a permis au Malien d'ouvrir la marque sur corner. Et puis, balle arrêtée également, coup franc, un tir détourné a permis à Wahbi Khazri, le joueur de Saint-Etienne, d'égaliser. Donc, un partout, le deuxième match nul des Tunisiens avant d'affronter eh bien, la sélection mauritanienne. Lors de la dernière sortie, le Mali conforte sa première place. Il avait déjà gagné le premier match sur le score de 4 buts à 1. Fouad, notre envoyé spécial en Égypte, bien sûr, quelques points à soulever avec vous à quelques minutes du début de la rencontre. Les stades, bien entendu, l'affluence et surtout l'organisation, Fouad.
Oui, tout à fait, c'est tout côté. L'organisation, Hakim, plutôt l'organisation. Pas mal de lacunes dans l'organisation de ces matchs qu'on a vus jusqu'à maintenant. On a eu toutes les difficultés du monde pour rentrer à la tribune de presse. Vu l'affluence record pour assister à ce match, que ce soit de la part de la presse marocaine, la presse ivoirienne et aussi la presse étrangère accréditée pour couvrir cet événement, mais surtout les difficultés qu'on a remarquées pour entrer au stade. D'après les informations que j'ai dit tout à l'heure de quelques supporters, eh bien, un grand nombre de supporters est toujours dehors. Il attend la possibilité d'assister au match. Déjà, on voit que les gradins se remplissent, pas moins de, on va dire, tiens, 3 000 et 4 000 supporters marocains, mais aussi des supporters égyptiens qui sont parmi les publics marocains, qui sont venus encourager les Lions de l'Atlas. Et puis, apparemment, pour le moment, il y a encore, disons, 45 minutes du début de la rencontre, eh bien, le public marocain est toujours dehors. Il attend les organisateurs leur permettent d'entrer au stade, et donc même ils sont munis de leur billet, de leur ticket, et ils n'arrivent pas à entrer au stade. Donc beaucoup de problèmes sont ici, et l'entrée pour le stade n'est pas très très fluide pour le moment, Hakim.
Merci Fouad. Peut-être dans la deuxième partie, on essaiera de vous rappeler également s'il y a bien entendu quelques informations à nous fournir, puisque le Maroc, on le rappelle, dans environ 25 minutes, eh bien, fera sa deuxième sortie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La première s'est soldée par une victoire. C'était face à la Namibie. Un but inscrit à la 89e minute. Un but inscrit par un joueur namibien. Il nous reste deux petites minutes. Et ensuite, la deuxième partie, on écoutera quelques joueurs algériens et marocains. Également, Hadi plutôt, Hadi Gharib, c'est notre consultant et également notre auditeur qui dit Belmadi, le sélectionneur de l'équipe algérienne, eh bien, a copié avec brio le modèle des Lions de l'Atlas, et on a vu cet état d'esprit de l'équipe algérienne hier. On y revient dans la deuxième partie. Retour sur l'équipe marocaine, bien entendu. On a parlé peut-être du scénario prévisible et également changement apporté. Si Hilal, est-ce que le fait que l'équipe du Maroc on va pas dire mal entamé la compétition, surtout le rendement, et également c'est le prolongement de ce qu'on a vu face à la Gambie et en Zambie en match amicaux. Est-ce que cela peut être, on va dire, un moteur pour l'équipe du Maroc qui a déçu et ne peut que s'améliorer?
Ben, c'est clair, ils ont intérêt à présenter un contenu plus copieux, chose normale, surtout qu'ils nous ont habitués à présenter des belles rencontres, surtout là je fais allusion à ce qu'on a vu en Coupe du Monde en Russie, sinon mais pour la rencontre face à la Namibie, je pense que le contenu n'était pas aussi mauvais que ça, la prestation était correcte à mes yeux. c'est ce manque d'efficacité qui persiste, qui devient un peu inquiétant. Sinon, dans le match, c'est ce manque de créativité aussi dans le dernier tiers qui inquiète le public marocain. Mais avec une équipe type, entre parenthèses, malgré la baisse de régime, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, moi je reste confiant. Je souhaite de tout cœur aussi revoir les acquis, revoir le pressing sur le porteur de balle, le contre-pressing, revoir la grinta, revoir
l'état d'esprit,
un bloc très compact, tout le monde défend, tout le monde attaque, c'est ça le Maroc que je connais.
On y revient avec vous, Hilal et Hervé également, dans la deuxième partie, dans un instant, eh bien, le point de l'actualité et ensuite la deuxième partie de l'avant-match. La deuxième partie de l'avant-match, on a eu tout à l'heure Fouad Hanaoui, l'envoyé spécial de Média au Caire, pour parler de la composition de l'équipe, l'organisation également, des supporters avec leurs tickets qui n'arrivent pas à accéder au stade. Et on a également évoqué avec Hervé Penaud cette sélection de la Côte d'Ivoire. Juste, on rappellera que le match de tout à l'heure, le Mali et la Tunisie ont fait match nul, un but partout, le deuxième nul de la sélection tunisienne. Avec Hilal Tahir, notre consultant avec nous, également on a parlé de la composition. Et avant de repartir, je rebondis sur une question d'une auditrice, Marzak Souad. J'espère qu'on assistera à un bon match, en parlant du match Maroc-Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, le niveau de cette CAN est bien moyen. Est-ce que vous partagez cet avis, Hilal? Et puis, bien entendu, est-ce que pendant un tournoi, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Coupe du Monde, on demande, Coupe d'Afrique, on demande aux joueurs, aux sélections d'être efficaces, performantes ou bien jouer au football?
À ma connaissance, dans n'importe quelle compétition de ce genre...
On arrive à lier les deux, c'est bien.
Oui, le niveau... Le niveau du jeu et l'intensité du jeu, le rythme du jeu augmente progressivement, chose normale, ça d'une part. D'autre part, personnellement, je trouve le niveau plus qu'au correct, vu les conditions climatiques difficiles dans lesquelles se déroulent les matchs. Vu aussi que l'édition à 24 sélections... n'est pas une chose facile, parce qu'il y a beaucoup de sélections qui disputent leur première Coupe de CAN.
La Mauritanie,
voilà.
On dit notamment
et
Madagascar.
Et d'autres sélections qui retournent après une longue absence. Je pense qu'il ne faut pas espérer plus que ça. Mais il y avait des bons matchs, comme de très grands matchs de très haut niveau, comme le match d'hier.
Algérie-Sénégal,
c'est un niveau plus que la moyenne. Sinon, moi, je pense que je le resterai profondément convaincu que c'est le beau jeu qui est le plus efficace. On peut pas très bien jouer et perdre un match. D'ailleurs, l'expression bien jouer après une défaite, doit disparaître du lexique footballistique. On ne peut pas très bien jouer et perdre, ça c'est pas normal.
Voilà, donc,
c'est contradictoire.
Ça arrive malheureusement parfois. On va poser la question à Hervé Penaud, notre monsieur football africain, en parlant de l'équipe. Dans un instant, on écoutera Younes Belhenda, l'international marocain qui effectue son retour. Cette équipe sénégalaise, Hervé, bien sûr, rien n'est perdu, tout reste encore possible pour cette formation sénégalaise, des joueurs avec un potentiel énorme. Mais là, surtout hier, après avoir encaissé le but, on n'a pas vraiment vu une réaction digne d'une équipe qui est composée de stars, entre guillemets.
Oui, mais le problème est un problème avant tout collectif, je trouve, avec cette équipe sénégalaise. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des individualités, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est certainement, à mon avis, l'équipe la plus forte sur le papier. Je dis bien sur le papier. Mais collectivement, ça ne fonctionne pas tellement. Alors l'absence d'Idrissa Gueye a été importante, parce qu'au milieu de terrain, c'est vraiment, pour moi, le maître un peu de ce milieu de terrain. Mais il n'empêche que vous êtes capable de passer d'un joueur de ce calibre-là. Ils sont bien passés de Sadio Mané lors du premier match. Ça, c'est l'histoire du football, que de ne pas être avec ses 11 titulaires à chaque match. Et c'est vrai qu'il manque ça, il manque cette touche pour l'instant collective qui doit faire la différence. Parce qu'à un moment, c'est quand même ça qui fait la différence, et je suis tout à fait d'accord avec votre technicien, c'est qu'à un moment, il faut pouvoir bien jouer, ou en tout cas, tenter de bien jouer. Hein, on peut ne pas y arriver tout le temps, mais en tout cas, il y a cette volonté. Et là, on s'est bien rendu compte qu'à un moment, la seule volonté, c'était soit de donner la balle à Sadio Mané pour qu'il fasse des différences, il en a fait 2-3 d'ailleurs, soit de balancer des grands ballons aériens sur des costauds de joueurs sénégalais, parce qu'il y a 2-3 mastocs, hein, un peu basketteurs, qui sont capables de récupérer de la balle de la tête, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on attend plus, évidemment, de cette équipe du Sénégal. Alors attention, je prends beaucoup de recul avec ce début de compétition. On parlait de la qualité des matchs. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, je pense que les terrains sont pour beaucoup, vu les conditions atmosphériques. Parce que là, on peut pas le nier. Mais quand vous jouez avec tout à l'heure, donc en Tunisie, la match de la Tunisie, il fait 36 degrés. Mais 36 degrés plus avec un peu d'humidité, ça, vous avez la sensation de voir 38-40. Faire des efforts comme ça. À un moment, je regardais Sliki, il pique un sprint et après, il pouvait plus. Il était cramé, bouilli. Donc, il va falloir gérer ces températures, ces efforts multiples, ce qui fait qu'à un moment, mais évidemment, le jeu sera un peu moins rapide, il y aura beaucoup moins de rythme. Et c'est pour ça que les matchs, d'ailleurs, regardez tous les matchs à 4h30 qu'on a vus, en général, il y avait souvent assez peu de rythme. Les joueurs pouvaient plus. Les meilleurs matchs sont les matchs de 22h, même si à 19h aussi, on a vu quelques matchs intéressants. Donc, je trouve que pour un début de CAN, le niveau est plutôt intéressant.
Voilà donc pour la question de nos auditeurs. Certains disent que la police égyptienne empêche certains supporters marocains d'accéder au stade. Et Fouad Lahnaoui, l'envoyé spécial de Médias, parlait tout à l'heure d'une certaine désorganisation. Samir Ouara, bonjour, bonsoir à toute l'équipe et également merci pour l'émission. On va écouter deux joueurs algériens, enfin côté algérien, le sélectionneur et également Sofiane Ferrouli, auteur d'une passe décisive pour le but algérien qui a permis au Fennec de battre le Sénégal. Mais d'abord, Jamal Belmadi, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie.
D'un point de vue tactique, ça a été très très intéressant. Les joueurs ont vraiment fait le boulot, vraiment le mérite leur en revient. On a vraiment insisté et travaillé là-dessus, surtout sur cet aspect-là. Parce que jouer contre le Sénégal, il faut vraiment être au point tactiquement et laisser le moindre espace possible. Sinon, ça se paye très cher. C'est tout à leur honneur, au mérite des joueurs d'avoir appliqué les consignes, mais avec beaucoup d'envie et beaucoup de détermination et beaucoup d'enthousiasme. Après, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a le profil d'un champion. C'est vrai que battre le Sénégal, ce n'est pas une chose aisée. Et je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de teams qui auront la possibilité de faire ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les choses sont réglées. Ce n'est seulement qu'un deuxième match, certes contre une des équipes les plus fortes, comme vous l'avez dit, l'équipe numéro 1 au classement FIFA du continent. Finalement, ça n'est qu'un match du groupe. Donc il reste encore beaucoup de matchs. On espère le maximum, je crois 7, pour arriver en finale. Donc j'espère qu'on ira au bout. Maintenant, on va apprécier cette victoire, bien sûr. On va bien récupérer et on va préparer le match de Tanzanie.
Jamal Belmadi, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie au micro de Mohamed Attahar. La Tunisie, donc l'Algérie, qui a signé donc sa deuxième victoire et a assuré sa qualification. Le Sénégal aura un dernier match face au Kenya. Le Kenya, vous le savez, a affronté hier la Tanzanie. Avant d'écouter Sofiane Ferrouli, si Hilal Tahir, on a vu cette équipe algérienne qui a été très critiquée ces derniers temps. Et on en parlait dans cette émission déjà, vendredi dernier, avec Hervé Epeneau. Malgré les critiques, c'est une équipe, j'allais dire en devenir, mais en tout cas prometteuse.
Ouais, tout à fait. Je partage votre avis. Moi, je trouve aussi... Avant de parler des joueurs de l'équipe, que je trouve que le sélectionneur, M. Jamal Belmadi, prépare bien ses matchs. C'est un fin tacticien, il laisse rien au hasard. Juste la preuve, c'est le produit du jeu sur le terrain. On voit une équipe qui a montré un niveau, un bon état d'esprit, un état d'esprit extraordinaire, un niveau aussi de jeu, un niveau de concentration aussi dans le jeu et dans les tâches. Très très élevé. Je trouve aussi que c'est une équipe disciplinée. La rigueur tactique était toujours de mise. J'ai trouvé aussi que c'est une équipe avec beaucoup de présence physique. Les joueurs sont là dans l'impact, dans les duels, soit au sol, soit en l'air. C'est vrai, il y a beaucoup de joueurs aussi capables de trouver des solutions individuelles. Mais il y a des joueurs aussi qui sont très généreux dans l'effort, capables de couvrir, de donner coup de main, de soutenir. Et ça, c'est cette grinta qui est essentielle, primordiale pour bâtir une équipe de l'avenir. Personnellement, je prévois l'Algérie en demi-finale facilement, s'il garde cette régularité.
L'esprit de groupe, c'est vrai qu'au Sénégal, et Hervé le disait tout à l'heure, on a parlé d'un pénalty que même la presse algérienne a reconnu. Il y a également ce deuxième carton et peut-être l'équipe algérienne qui pouvait se retrouver à 10. Mais n'empêche, cette équipe a fait d'énormes progrès. Et puis, Hilal, vous le disiez, vous parliez du sélectionneur qui a pris des décisions importantes à l'image d'un joueur, par exemple, qui fait les beaux jours de Porto, Yacine Brahimi, qui est sur le banc, Hervé.
Oui, absolument. Il y a des vrais choix d'entraîneurs. Et je suis 100% d'accord sur l'idée que Belmadi prépare magnifiquement bien ses matchs. Parce que l'idée de mettre Feghouli un peu plus bas à la récupération, avec sa qualité technique, ça vous donne une lampe de rancement intéressante. Je suis bluffé par un joueur comme Bennacer, que je connaissais pas bien, de nom évidemment, hein, parce que je savais qu'à Empoli, apparemment, il faisait une relativement belle saison et Lyon était à un moment dessus. Mais là, vraiment, il m'a bluffé sur ce début de compétition. Il est à la fois technique et capable de changer de rythme. Il est agressif. Je parlais tout à l'heure de Bounedja, qui est à mon avis un pilier un peu dans cette équipe, parce qu'il faut avoir quelqu'un capable en pointe, un peu j'allais dire comme l'équipe de France hein, avec Giroud, de pouvoir faire ces efforts-là, se mettre au service du collectif. Donc j'ai la sensation franchement que c'est parfaitement préparé, travaillé, on voit les sorties de balles, les combinaisons en sortie de balles. À peu près tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire. Alors maintenant, la difficulté pour l'Algérie, évidemment, c'est quand ça va commencer on va enchaîner les matchs, on en est au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et là ça devient plus dur. Comment réagiront les joueurs qui sont peut-être moins habitués à faire autant d'efforts? Bah là, c'est le point d'interrogation, et c'est ce qui peut gêner peut-être cette équipe. Mais en tout cas, là, sur le début de compète, moi, c'est peut-être l'équipe qui m'a le plus plu, j'allais dire.
Voilà donc pour la sélection algérienne qui doit confirmer Sofiane Ferrouli, passeur décisif hier lors du match face au Sénégal.
On a bien préparé ce match. Félicitations au staff technique qui nous a préparé le match comme il fallait. Bravo à toute l'équipe, l'état d'esprit. Voilà, on a joué avec les valeurs de l'Algérie. Voilà, on s'est battu l'un pour l'autre. Générosité, on a mouillé le maillot. Et voilà, cette victoire, c'est pour le peuple. Là, je me suis battu pour l'équipe. J'ai pas compté les efforts. Mes partenaires m'ont facilité le travail. Voilà, maintenant, il faut se reposer. Un troisième match, il faut respecter la Tanzanie. On va tout faire pour les battre. Et voilà, on n'a rien accompli, mais c'est une très bonne victoire, très importante. Faut rester lucide. Voilà, mais c'est bien, faut savourer.
Restez lucide, Sofiane Ferrouli, l'un des cadres qui a eu quelques problèmes ces derniers temps avec la sélection même. En Turquie, on le rappelle, il était à Valencia avant, après la France. Et c'est un joueur cadre qui a disputé la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, qui était remplaçant lors du dernier match. Il nous reste 5 petites minutes. On rappellera que la sélection égyptienne est qualifiée, le Nigeria aussi. Rapidement, Hervé, rapidement, cette sélection du Nigeria, on l'a vu lors de sa première sortie en difficulté. La deuxième aussi, c'est une équipe qui monte en puissance, il faut toujours s'attendre à un Nigeria fort à partir parce que ce sont des sélections qui gèrent un tournoi.
Oui, absolument, elles ont l'habitude. Et puis, le Nigeria, j'allais vous dire, même du temps de sa splendeur, c'est jamais une équipe flamboyante. Alors, on se souvient des coups de patte de certains joueurs, évidemment, et qui ont marqué les esprits. Mais c'est souvent une sélection qui joue pas avec beaucoup de rythme. J'allais dire qu'il joue au rythme, par exemple, d'un Obi Mikel ici, alors même s'il a pas été, il était pas présent sur le deuxième match. Mais c'est-à-dire que c'est par à coup. Ils ont des joueurs très rapides, parfois devant. C'est des joueurs quand même costauds, qui ont techniquement des qualités derrière, et qui sont capables d'attendre, et puis par moments de se projeter relativement vite, mais il faut pas être. Je suis rarement ébloui, si vous voulez, par le jeu des Nigériens. Autant les Ghanéens, parfois, on pouvait les surnommer les Brésiliens de l'Afrique, hein, avec cette qualité technique, cette vitesse dans le jeu. Alors que le Nigeria, c'est vraiment un autre style de football, mais qui correspond pas mal à la Coupe d'Afrique des Nations. Vu la température, on en reparlait, vu parfois la qualité des terrains ou la non-qualité, mais ce qui n'est pas le cas en Égypte, donc ça se passe plutôt bien sur ce plan. Et ben eux, ils savaient gérer ce tempo-là. Mais attention, parce que ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont pas gagné non plus une Coupe d'Afrique des Nations, donc il va falloir aussi qu'ils repoussent un petit peu tout ça, et c'est même pas le Ghana qui se retrouve chaque fois en demi-finale. Eux, ils n'ont pas toujours réussi ça. Alors ils avaient gagné évidemment en AFSUD en 2013 en battant, avec le regretté Stéphane Kéchi, en battant le Burkina Faso.
Une dernière question, il nous reste 3 petites minutes, 3:30, Hilal, Hervé, les auditeurs, Samir Ouarab, Bachir Sourri, Badr Batr, qui souhaitent bien sûr une victoire de l'équipe du Maroc après la victoire face à la Namibie et confirmée face à la Côte d'Ivoire. Les attentes sont énormes. Si s'il y a par exemple une défaite de l'équipe du Maroc, rien n'est perdu, Hilal.
Bah voilà, j'espère aussi que la causerie du sélectionneur n'apportera pas une pression supplémentaire. Parce que certes, l'enjeu du match est important. Une qualification nous permettra de se qualifier directement aujourd'hui et préparer dans de bonnes conditions le dernier match du premier tour. Mais un autre résultat ne sera pas décisif, ni pour nous, ni pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est une intéressante retrouvaille, frisson garanti. Mmh. Moi, je suis mauvais en pronostic. Moi, je prévois un 2-0 pour le Maroc.
Voilà donc pour le pronostic. On va terminer avec Hervé. Les dernières confrontations, par longue période, la Côte d'Ivoire était en quelque sorte l'équipe qui devait ou qui bat tout le temps l'équipe du Maroc. Là, les deux dernières sorties en Coupe d'Afrique, la dernière CAN et également les éliminatoires du Mondial, le Maroc a réussi à s'imposer à 2 reprises, sans parler du match au Maroc. Même si en 2006 et également en 1986, je pense, eh bien, les Ivoiriens avaient battu l'équipe du Maroc, c'était en Égypte.
Oui, mais parce que depuis qu'Hervé Renard finalement a quitté la Côte d'Ivoire et est arrivé au Maroc, en fait, les Ivoiriens ne battent plus Hervé Renard. Donc il doit le regarder avec un air un petit peu en disant, mais zut, il nous connaît parfaitement, il connaît nos forces, nos faiblesses, etc. etc. Mais bon, vous savez, je me méfie toujours de ces choses-là, mais toujours est-il que ces derniers temps, force est de constater que qui s'est qualifié à Abidjan, c'est le Maroc et c'est pas la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quand même un petit avantage pour l'équipe marocaine, même si on est dans une compétition différente et même s'il y a Nicolas Pépé aujourd'hui qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans cette équipe et qui va vouloir montrer qu'il peut marcher aussi dans les pas de Didier Drogba.
Voilà donc pour ce match et la Coupe d'Afrique des Nations. Dans quelques minutes, le coup d'envoi de ce match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. On rappellera que le Mali et la Tunisie se sont neutralisés un but partout. L'équipe du Maroc qui tentera de se qualifier dès ce soir. Hier, l'Algérie a assuré sa qualification à la faveur de sa victoire 1-0 face au Sénégal et rejoint le Nigeria et également l'Égypte, le pays organisateur. Merci beaucoup Hervé Penaud, notre consultant pour le football
Merci
africain.
Merci à vous, à bientôt.
Merci, bonne soirée. Merci également à Hilal Tahir pour nous accompagner tout au long. C'est un honneur et un plaisir également de vous écouter sur les ondes de Média. Notre ami Abdrahim à la réalisation et toute l'équipe du digital, nos auditeurs également. Bonne soirée, bon spectacle et à demain.